Duel du Canadian Black Book. Alors quand sonne l'inévitable appel à l'aide, montez dans votre camion primé. Parce qu'avoir un ami comme vous, ça aussi, c'est gagnant. Quand c'est l'heure de se retrousser les manches, c'est l'heure Toyota. Découvrez le Tacoma chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur achetezmatoyota.ca.
Boulevard 102, c'est votre radio rock. Merci d'être là.
L'ADN du rock.
On est de plus en plus nombreux à avoir du fun.
Ben, parce que vous êtes les meilleurs au monde.
J'adore 102!
Il n'y a rien de mieux que 102-1
et son
équipe.
102-1.
Parce que vous êtes la meilleure radio au monde!
Boulevard 102. Bienvenue chez vous. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 en espérant que vous ayez passé une belle journée. On lâche pas le soleil qui revient demain et qui ne devrait pas disparaître jusqu'à lundi. Des journées pluvieuses où il n'y a pas beaucoup de lumière, je vais vous dire que je ne l'entends au bureau. Il me semble que l'énergie n'est pas là. Je ne sais pas si vous autres, ça vous affecte, mais bref. On va faire en sorte que ce soir, on va oublier cette journée-là, puis on va penser au moment présent. Pourquoi? Parce qu'on va parler avec Samuel Tremblay-Michaud. Ça va être une soirée, Samuel Tremblay-Michaud, puisqu'il fait deux émissions en ligne. Une où il va être l'interviewé et l'autre, ça va être l'intervieweur. Donc, Samuel Tremblay-Michaud, officiellement, salut.
Salut.
Chroniqueur auto?
Oui.
Depuis combien d'années?
Ça va faire quelques années. J'aimerais ça dire 5 ans parce que je roule ma bosse à la radio depuis un petit bout quand même. Ouais. Tu sais, je fais des chroniques radio. Mais plus officiellement depuis 1 an. Mettons, ben, tu sais, 1 an que je suis plus temps plein là-dedans. Là.
Ouais. T'as toujours trippé sur l'automobile?
Toujours.
Ouais.
Puis j'ai fait toute ma carrière, mais ma carrière. Comme si j'avais comme.
Ma carrière!
Non, mais tu sais, j'ai fait toutes mes études, puis tout ce que j'ai entrepris a toujours été autour du domaine de l'automobile.
Ouais.
J'étais réputé quand j'étais jeune, je poussais mes petits chars dans ma poussette, j'ai fait des trafics sur mes tapis d'auto sans arrêt.
T'as toujours trippé là-dessus?
Toujours trippé là-dessus, là. J'ai lu les guides puis les annuels de l'auto de 96 à aujourd'hui, puis j'aime ça vraiment beaucoup. Fait que j'ai toujours trippé sur l'auto, mais c'est le volet, l'espèce de dualité que t'as dans le conseil automobile que j'aime le plus possible.
Okay.
Je trouve ça tellement important comme dépense, t'sais, on l'oublie tellement souvent que le poids de voiture c'est dispendu.
Je pense que c'est la plus grosse dépense après la maison.
C'est directement ça. Puis encore plus jamais que maintenant, là, c'est avec le coût des véhicules, clairement, la voiture a pris une place tellement importante dans notre portefeuille que je trouve ça important de conseiller les gens. Puis si moi, je trippe de même, j'espère qu'au moins les gens, quand ils achètent leur voiture aussi, sont contents. T'sais, la plupart veulent un point A au point B. Là, on veut un char pour faire le minimum.
Ouais.
Mais c'est le fun d'apprécier quand même ce qu'on conduit.
Oui.
T'sais, le minimum, juste d'aimer le look, la couleur à la limite. C'est juste de trouver le fun, le véhicule qu'on se paye. C'est un peu la mission que je me donne tout le temps, d'essayer de conseiller le monde, puis j'ai fait mes études pour faire ça.
Ah, j'adore ça. Puis tu sais, il y a une très faible partie de la population qui se font entendre très fort en disant « Mais qu'est-ce que vous faites avec vos SUV? Vous consommez beaucoup trop d'essence, alors que c'est plus nécessairement vrai. » Un SUV, des fois, c'est bâti sur un véhicule bien ordinaire.
Plus souvent qu'autrement.
Puis année après année, ben les moteurs font en sorte qu'ils consomment de moins en moins d'essence. Mais c'est vrai que de trouver ça agréable, le véhicule qu'on a acheté, c'est important. T'sais, oui, l'utilité, oui, là, mais de le trouver beau, d'être capable de dire « Ah, ça, c'est mon char », puis quand je le regarde en stationnement, il est différent des autres, c'est le fun en maudit. C'est comme un prolongement de ta personnalité.
Ben, on est tous différents, hein, puis il y a tellement beaucoup de voitures de disponibles ou de types de véhicules de disponibles que je pense qu'il existe quasiment le char pour tout le monde. Puis c'est juste ça, après ça, l'espèce de réflexion à avoir. T'sais, j'aime ça, beaucoup de gens m'écrivent sur mes réseaux sociaux pour demander des questions. « Je devrais-tu faire ce move-là? Je devrais-tu pas le faire? » En passant, je réponds à tout le monde. Si jamais vous voulez m'écrire, ça va me faire un immense plaisir.
Samuel Tremblay-Michaud.
Sur Facebook. Ça, c'est simple de même. Et tu sais, des fois, je vois des gens qui m'écrivent, puis tu vois que leur tolérance au risque est vraiment en poche. Tu sais, je veux pas prendre de risque. Ça me prend de quoi de fiable. Je veux pas dépenser d'argent là-dedans. Ça m'écœure acheter un char. Ça m'écœure mettre du gaz là-dedans. Ce qui est la réalité de beaucoup de personnes au bout de la ligne.
Ouais.
Mais quand tu trouves le produit qui, après quelques années, t'a pas coûté d'argent tant que ça, t'a pas brisé dans la face, qui a pas coûté une fortune en essence,
qui a une bonne valeur de revente,
tu l'apprécies un peu plus.
Ben oui, c'est clair.
Fait que le fait que tu l'apprécies un peu plus, ma mission est faite. T'sais, quand j'en reviens au début de l'histoire, c'est un peu ça mon but, c'est de conseiller le monde à aimer leur char.
C'est clair. Mais tu sais, ta prémisse, hey, ça me prend le meilleur véhicule possible.
possible le moins cher possible, parce que ça n'existe pas. Là. Ce véhicule-là n'existe pas.
Il n'y a pas de solution parfaite et il n'y a pas un constructeur de parfait.
Ouais.
Arrêtez de penser qu'il y a un constructeur magique, là, que lui, il a tout compris, que tout est réglé et que ces voitures-là sont parfaites. Ça n'existe pas. Là. Il n'y en a pas. Il y a un compromis à faire dans chacune des actions qu'on va poser quand on achète un véhicule.
Ouais.
Puis c'est pour ça que je suis content depuis maintenant un an d'attrayer beaucoup plus là-dedans. J'en essaye de plus en plus des chars. Je vis dans l'actualité automobile aussi. Puis c'est fou de voir à quel point là, on est dans une période névralgique dans l'actualité automobile.
Ouais.
Ça bouge, ça change. Je pense que dans les 10, 15, 20 dernières années, on n'aurait jamais vu autant de changements dans l'actualité de l'auto. Puis ça fait en sorte qu'on développe des produits qui me semblent pas toujours cibler les bonnes personnes. Puis on essaie de les vendre à ces personnes-là. Je parle des chars électriques, vous comprendrez bien qu'on parle de ça présentement. Là.
Uh-huh.
Mais tu sais, la voiture électrique est arrivée sur le marché comme une traînée de poudre. On a fait « c'est la révolution tranquille ». Et des gens qui avaient cette tolérance au risque, que je parlais un peu plus tôt, les gens qui n'ont pas de tolérance au risque, ont vu l'avantage de sauver des sous sur l'entretien puis l'essence. Ils ont couru chez les concessionnaires se réserver un véhicule qui ont payé le double de ce qu'ils auraient été prêts à payer il y a 3 ans et qui, au bout de la ligne, achètent des véhicules test un peu plus qui sont sur le marché présentement. Donc, on voit cette espèce d'amalgame de choses-là. Puis je pense que c'est le moment, plus qu'autrement, de se faire demander de l'aide, d'aller chercher de l'aide pour acheter un véhicule parce que ça devient mélangeant.
Ouais.
J'écris du monde qui met. Moi, je veux une Kia Forte. Ils sont chez le concessionnaire. Bonne chance. Là. Il n'y en a pas dans les cours. Là.
Non, c'est
ça. Ils sortent là.
En même temps, ils l'ont-tu vu dans la rue? Ils l'ont trouvé belle. Ils se sont dit, c'est ce genre-là. Que ça... non, faut que tu le laissais.
Faut que tu t'assoies dedans. Oui. Puis, au minimum, j'ai moi-même fait l'exercice. Je me suis commandé une voiture. Mais j'ai déposé un dépôt là, pour réserver mon auto. Mais je n'achète pas le char tant que je ne l'ai pas conduit. Uh-huh. Avec la bonne transmission.
Ben ouais.
Je voulais une boîte manuelle. Ils sont rares. Ils ne sont pas faciles à trouver.
On va en parler d'ailleurs tantôt.
C'est pas mon problème.
Non.
Moi, je vais l'essayer manuel avant de signer. Quoi que ce soit.
C'est ça.
Puis ça, je vous le conseille de le faire aussi. Là. Fait que, en tout cas, c'est ça qui est le fun du marché. Là, je tire un peu à gauche et à droite, là, ouais. Mais l'automobile, c'est en mouvement présentement. Puis c'est ça qui est vraiment stimulant.
Ça a été quoi votre premier véhicule? 418-971-1011. 418-971-1011, ça m'intéresse. Puis je vais vous lire tantôt. Vous pouvez en être rassuré. Moi, ça a été un Mustang 5 litres.
Wow!
J'ai été arrêté dans la cour d'un concessionnaire. Je ne sais pas s'il est encore là. Je pense pas. Mais il était au début de la première avenue, puis du viaduc là, qui passe par-dessus la rivière... c'est quoi cette rivière? La rivière Saint-Charles. Il y avait un concessionnaire là, je pense que ça s'appelait Alain Bois, quelque chose du genre, puis il y avait un beau Mustang 5 litres rouge avec des mags. Il était à 5 000 $, puis moi, je travaillais chez Ronald McDonald, donc j'étais exceptionnellement très, 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 très riche. Et j'arrive dans le stationnement, puis le vendeur arrive, puis il me dit, t'aimes ça, ce véhicule-là? Je dis, ouais, j'aime ça, j'aimerais ça l'acheter. Il dit, t'as-tu un peu d'argent? Je dis, ouais, j'ai un petit peu d'argent de côté, mais j'aurais besoin de financement. Il me dit... t'as-tu un bon crédit? Moi, je savais pas c'était quoi, t'sais. Un crédit, c'est quoi, c'est un crédit? Ben, du pour emprunter, ouais, pas de trouble. J'ai été, avec la permission de mes parents, j'ai été chez Crédit Trans-Canada.
OK.
Quelque chose
oui,
du genre.
Oui, oui, je pense que ça existe encore.
Le char m'a toffé à peu près 8-9 mois. Puis je l'ai payé à peu près 3-4 ans. Mais j'avais un super de beau Mustang 5 litres.
Qu'est-ce qui s'est passé en
1984-1985. Ben, le char était fini, là, tout simplement. Puis le gars, il voulait s'en débarrasser. Puis il avait trouvé le poisson pour s'en débarrasser. Mais le char était beau, là. Il me faisait capoter. Puis juste de faire du 0 à 50 km/h, le bruit que ça faisait, ça me faisait capoter.
C'était pas grave le gaz non plus à cette époque-là.
Il était pas si cher non, que ça à cette ça. Époque-là. Là. Ouais. Mais... ça a été mon premier véhicule. J'ai toujours trippé sur les muscle cars. Encore à ce jour, quand je vois des gars avec des vieux muscle cars des années 60-70, ça me fait tripper, ça me t'a pas idée. Pourquoi, je sais pas.
C'est carré.
L'odeur, c'est carré. Il y a une masculinité. Quand tu regardes ce char-là, il y a une masculinité qui est attrayante. T'embarques là-dedans et tu dis « waouh, je suis maintenant complet
». C'est des vedettes de films aussi quand même. Oui. On les a vus dans plein de films, ces chars-là. Ouais. Tu vois pas souvent des Corolla vedettes d'un film. Là.
Non.
Rien contre le Corolla, là, mais tu sais, un Charger RT carré noir avec des noir, les vitres teintées.
Non, c'est ça.
Tu vois juste les deux yeux du chauffeur à travers le pare-brise. Là.
Exact.
Ça, c'est cool.
Ben t'sais. Oui, vraiment. Ah ouais. Vraiment. Fait que moi, ça a été un Mustang 5 litres, mon premier genre. Je pense que c'était un 84 ou un 85. Toi, ça a été quoi?
Un Nissan Versa.
Oh boy!
2009.
Pour un gars de char, t'as dû être triste pendant quelques mois.
Manuel 6 vitesses,
oui.
1,8 litres. C'était le gros moteur. Il y avait deux moteurs dans ce temps-là.
Un Nissan Versa, mais t'avais quel âge?
J'avais 17 ans.
Ah, OK. Mais c'est d'accepter que ta sexualité, t'en auras pas pendant un certain temps.
C'est de l'assumer. Je pense que c'est juste ça, c'est de l'assumer rendu là. Mais une voiture que J'ai apprécié sur toute la ligne.
T'es au bar, la personne te dit « On retourne comment à maison? » Puis tu dis « En taxi, j'ai pris une bière de trop. »
Je trouve ça tellement fun.
Je m'en vais en taxi. Taxi.
Je parlais des profils types. Là, ouais. Mettons, moi, je suis gars en Versa. Toi, t'étais le gars en Mustang. Ouais. J'adore ça. Mais je l'ai aimé, ce petit char-là. Manuel 6 vitesses, quand même. 1,8 litres. C'était spacieux. Il y avait tellement de l'espace dans ce petit char-là. Puis j'ai fait mes études à Jonquière. Puis je venais de Québec. Fait que je faisais toujours l'aller-retour Jonquière-Québec souvent. Fait que tu sais, faire le parc là-dedans, j'étais super confortable. Il y avait vraiment des équipements.
Ben ouais, c'était fiable.
Pas cher de gaz. Fiable comme un âne. Ça, là, tu nourris ça aux carottes, ça fonctionne. Là. Vraiment, là, c'était pas compliqué à faire rouler. Non, je l'ai bien aimé, ce petit char-là. Mais tu sais, j'étais allé, je pense, 5 fois me faire des prix dessus pour le changer pour un Golf GTI ou essayer d'avoir un Civic SI. Ou tu sais, je voulais toujours avoir plus. Mais moi, j'étais pauvre, à différence de toi, j'avais pas une scène.
Ouais. Je payais travaillais pas chez Ronald McDonald.
Je travaillais 3 jobs, mais je payais mon appart, payais mes affaires, j'arrivais pas. Là,
hey, j'ai commencé chez Ronald McDonald à 6$ de l'heure.
J'ai travaillé chez Ronald McDonald aussi. Mais je suis comme, vois-tu, moi j'étais en 12$ de l'heure.
Ouais, t'as commencé plus tard.
Plus tard.
Mais ouais. À 6$ de l'heure, le char qui me coûtait 5 000 que j'ai payé pendant 4-5 ans, là, c'était dur à éponger, je peux
ça,
te le dire.
Hey, ça devait être long comme paiement. Hein, c'est ça. Moi j'avais payé cash mon Versa, fait que pas de dette.
OK.
Fait que le premier char, pas de dette, c'était quand même intéressant. Là. Je l'ai eu longtemps, c'est un des chars que j'ai eu le plus longtemps. Dans tout mon line-up de voitures. Je dois à peu près avoir eu 13 charges.
Ton véhicule de rêve quand tu étais jeune, c'était quoi?
J'ai toujours aimé, et j'en parle souvent, là, mais j'ai toujours aimé le Nissan 350Z.
Ben oui, ben oui.
Moi, le 350Z, appelé affectueusement la roche dans l'industrie, parce qu'on dirait une roche, comme une grosse pierre, j'ai toujours aimé cette voiture-là. Avant même que là, les films commencent autour de ce véhicule-là, on peut penser à Rapide et Dangereux, Tokyo Drift. Ouais. Là, on l'a vu souvent, ce véhicule-là, mais. Je l'ai toujours aimé. Je trouvais que son design à l'époque, quand il est arrivé, c'était justement, on venait casser les barrières, l'espèce de rondeur qu'on a mis là-dedans,
ouais.
Le long bonnet en avant, on avait les deux exhausts massifs en arrière, les lumières de arrière aussi qui montaient sur le dessus du coffre, le côté haillon coupé du véhicule. Mais tu sais, t'étais assis là-dedans, là, t'étais couché à terre, là, tu te sentais dans une voiture de performance tout de suite. Quand même, un moteur de V6 3,5 litres qu'il y avait à l'avant, propulsion, boîte de vitesse manuelle, ça cochait tout ce que je voulais. J'avais même un poster de 350Z dans ma chambre. Là, c'était un char que j'ai vraiment aimé longtemps.
Ah oh, ouais, mais c'est ça. Moi, j'avais acheté un Mustang, mais j'aurais aimé avoir le véhicule de Shérif Fais-moi peur. On en voit encore aujourd'hui en 2023. C'est plus rare, là, parce que c'est rendu des pièces de collection puis ça vaut une fortune. Ouais. Mais t'sais, ces voitures-là de Shérif Fais-moi peur, là, je regardais ça à télé puis je trippais. Oh, oui, je voulais rentrer par les fenêtres tout le temps.
Oh, oui.
Au diable d'ouvrir ma porte. Là. Non. Moi, je veux vivre dans ce char-là.
Tu ne coupes pas tes souliers, tu swings dans le char.
C'est ça. Et de me faire tout le temps courir par la police, un peu imbécile, là, qui réussit jamais à me faire prendre. c'était parfait. Mais tu sais, n'en demeure pas moins que pour ceux qui ont trippé très jeune sur les voitures, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de se trouver une voiture qui convient à nos besoins. Tu parlais de la conduite avec transmission manuelle.
Ouais.
Moi, j'ai appris à conduire avec la transmission manuelle. Aujourd'hui, je me suis acheté un Wrangler Sport manuel spécialement parce que je veux conduire manuel. Puis là, ben, j'étais en train de regarder pour quelque chose de plus gros parce qu'avec 3 poches de hockey avec mes 2 gars dans le char, écoute, c'est ridicule, mon enfant. Même ma propre poche ne rentre pas.
Un Wrangler 4-portes?
Non, c'est un 2-portes.
Ouais, mais tu peux en prendre un 4-portes manuel?
Oui,
encore, là.
Mais j'en ai pas trouvé.
Non, bonne chance. Mais passe-le en commande, mais là, il y a la grève là, qui est en cours. Là.
Ouais, c'est ça.
Les Wranglers sont touchés. Là.
Fait que, tu sais, la conduite manuelle, on dirait que ça disparaît de plus en plus. Je trouve ça triste. Pourtant, il reste encore une demande. T'sais, on est 2 dans le studio présentement. On est 2 qui trippent à conduire manuel.
Si on faisait un sondage actuellement, 100% des gens dans le studio trippent sur la conduite manuelle.
Puis les gars, quand je parle aux gars de Hughes, là, ils me disent tout, ouais, quand il y a un char manuel, c'est un peu plus long à vendre. Parce que les jeunes aujourd'hui, c'est tout le temps automatique. Là.
C'est la culture. On a amené cette culture-là aussi de plus conduire manuel. On a mis dans la tête des gens que conduire manuel, c'était la chose la plus difficile au monde. Puis on aime la simplicité. Hein. On aime les choses conviviales, les choses qui sont simples. Et souvent, le réflexe n'est pas très complexe. Je veux de quoi de simple, je veux de quoi de facile à conduire. Je vais aller me chercher un véhicule automatique. La boîte de vitesse automatique, on met des choses en perspective. Il y a plusieurs types de boîtes de vitesse automatique. Et honnêtement, c'est une époque extraordinaire pour vivre avec des boîtes automatiques. Elles sont raffinées plus que jamais.
Oui.
On a des 9 vitesses, on a des doubles embrayages, des boîtes de transmission CVT pour économiser de l'essence. Elles sont moins fun à conduire, mais très économes en carburant. Bref, il existe une boîte automatique un peu pour tout le monde. Puis ça,
il y a des 9 vitesses. Attends un peu, là. T'es en train de me faire allumer sur quelque chose. Puis je sais que toi, tu connais pas mal ça, les véhicules. Là. J'ai essayé un véhicule hier, en fait, cool. Lundi, toute la journée. C'est Mercedes. C'était le deuxième ou le troisième Mercedes que j'essayais là, de chez Bernier Auto. C'est un AMG 43
ouais.
2021.
Oui.
Puis, bon, ben, tu comprendras que c'est une conduite automatique.
C'est un classique que tu avais, dans le fond.
Je sais pas.
Un classique 43, c'est une berline, là.
Oui, c'est ça.
C'est ça, assez massif.
Puis, berline, à un moment donné, je regardais quelle vitesse qu'il m'indiquait. J'étais autour de 110-120 km/h. 119 pour la police. Ouais. Mais écoute, j'étais à 119. Puis, c'était écrit 9. J'étais là, on est-tu ouais. vraiment à 9 vitesses là, ouais. sur le Mercedes?
Oui, absolument. Il y a des transmissions qui sont faites par des groupes comme ZF, là, qui est une entreprise de transmission qui vend ses transmissions à Jeep, qui vend à plein de monde. OK, t'avais le VUS. Fait que c'était le GLC 43 que t'avais.
Ouais.
Beau véhicule, ça.
Mais là, il y a plusieurs modes de conduite. La conduite ouais. sous la pluie, conduite ouais. glace. Là, t'as conduite sport plus.
Ouais.
Puis là, Steph, de Bernier Auto, dit Yann, quand tu vas embarquer sur l'autoroute, parce que Bernier Auto est juste à côté des ponts, fait que t'embarques tout de suite sur l'autoroute, ouais. il dit ton 0 100 km/h, là, essaie-le un peu dans la courbe, puis mets-toi sport plus. Sacrifice, ça a beau être automatique. Là. C'est une bombe, ce char-là.
Absolument. Puis, tu sais, c'est des véhicules qui sont calibrés justement pour ça.
Ouais.
Normalement, Sport Plus, la transmission devient aussi très réactive. Elle a 9 vitesses. Fait qu'il faut qu'elle a besoin d'un certain temps pour revenir à son bon niveau de vitesse. T'sais, elle faut qu'elle redescende ses vitesses. Mais comme elle est prête puis qu'elle est allumée, ça descend vite. C'est impressionnant comment ouais. ça peut bien fonctionner. 9 vitesses, c'est le fun aussi pour faire la grande route. En mode confort, ce véhicule-là devient beaucoup plus confortable et on est capable d'avoir une meilleure économie de carburant parce que là, au contraire, la transmission va aller chercher le rapport le plus haut possible pour faire révolutionner le moins haut possible le moteur. Fait que le but, c'est de jouer sur le torque, le couple du véhicule. Mm-hmm. Comme ça, on économise plus de carburant. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on va jouer. Puis tu sais, 9 vitesses, impressionnant, mais je t'invite un jour à essayer une transmission à double embrayage. Ça, c'est les transmissions qu'on va avoir dans des véhicules un peu plus de performance. Volkswagen en fait une très bonne qui est connue, qui s'appelle la DSG. C'est le nom de cette transmission-là, qui est très connue dans les véhicules de performance comme la Golf R ou la Golf G. Cette transmission-là, ou même dans les produits Audi, bref, elle permet de changer les vitesses de manière extrêmement rapide parce qu'elle, elle a comme deux clutches. Fait que qu'est-ce qui fonctionne, c'est qu'il y a comme toujours une vitesse de prête qui est embarquée déjà dans la transmission. Fait que quand tu es en 3, tu dis, moi, je vais aller plus vite, je vais payer sur le gaz. La 2 ah ouais. est déjà en train de virer. Là.
Okay.
Tu payes sur le gaz, c'est instantané. Là. C'est comme un coup de gun. Là. C'est impressionnant tellement ça change rapidement de vitesse. Fait qu'est-ce qu'on peut en vouloir au monde de préférer les boîtes automatiques quand on est rendu avec des boîtes aussi raffinées que ça qui permettent d'avoir de la performance autant hallucinante? Moi, j'en veux pas à personne. Là, puis la boîte manuelle meurt. Il n'y en aura plus dans quelques années. Là,
quelle tristesse.
Mais c'est vrai de vrai. Là, c'est pas. T'sais, des fois, des gens qui s'accrochent un peu à l'espoir. Moi, je suis dans ceux qui. Caroline de Bin, j'aurais aimé ça qu'elle reste longtemps encore, la boîte manuelle. Mais faut être conscient qu'elle s'en va pour de vrai. Il n'y en aura plus dans le marché dans très peu de temps. S'il en reste, ça va être sur quelques produits très élitistes, des produits très nichés qui vont avoir des prix démesurés. Donc, tu sais, quand on parle de boîte de vitesse manuelle, quand je dis qu'ils s'en vont, pour monsieur, madame, tout le monde, ils s'en vont. Ces boîtes de vitesse là, c'est un peu le même que je le vois.
Mm-hmm.
Mais il va falloir apprécier qu'est-ce qu'on va avoir après ça si on veut continuer des fans d'auto. T'sais, je dis que je suis un fan d'auto depuis toujours. Faut que je m'adapte. J'ai pas le choix. Là, si je veux continuer à aimer les chars, faut que j'apprécie le plaisir d'avoir une boîte de vitesse automatique qui est très réactive. C'est comme ça peut être le fun aussi.
Mais tu vois, ce véhicule-là que j'ai essayé, le Mercedes, c'est un véhicule qui n'est pas dans mes moyens. Là. C'est pas le genre de véhicule que je vais m'acheter. Mais pour ce qui est de la transmission, ça m'a grandement impressionné. Puis une transmission qui m'a déçu, puis Steph de Bernier Auto, il mentionnait ça, c'est qu'il y a énormément de véhicules qui sont dotés de la fameuse transmission CVT
ouais.
ou CTV, je ne me rappelle pas trop
CVT.
Comment ça. C'est CVT. Ouais. Hey, c'est vache sur un méchantant. T'as l'impression que tout va péter.
Ben c'est ça. T'sais, tantôt, j'en parlais rapidement, mais c'est une transmission qui est très économique en carburant. L'idée, c'est un peu comme une transmission de skidoo. Pour ceux qui aiment les motoneiges, là, c'est un peu ouais. le même principe. Là. C'est une transmission qui a comme une infinité de vitesses devant elle. Donc, elle va toujours aller chercher un rapport qui n'existe pas dans une transmission régulière.
Mm-hmm.
Donc, l'objectif, c'est d'être capable d'aller chercher le meilleur ratio de régime moteur possible. Je m'en vais pas trop dans le technique. Dites-vous que le but, c'est de faire sauver de l'argent sur la consommation de carburant de votre véhicule. Quand on a ça comme mission première, on n'a clairement pas le plaisir de conduire en tête. Là. On n'est clairement pas en train de réfléchir à et que ça va être plaisant, puis on va donner des accélérations brusques.
Ouais.
Le véhicule va se dégager d'une voie pas du tout.
C'est
là.
Pas ça.
Non, on n'est pas là.
Tu sais, moi, je ne savais pas que c'était ça, mais quand j'ai essayé, c'est le véhicule de la mère de mes enfants, puis je l'ai essayé, je me dis tabarouette de Colin, c'est pas pantoute comme les autres transmissions automatiques, c'est pas pantoute comme... tu sais, il n'y a pas autant de torque quand tu conduis manuel. Fait que j'imagine que tu t'habitues avec le temps à cette fameuse transmission-là, ouais. Mais s'il y a des économies de carburant à faire, puis est-ce que ça coûte plus cher ou moins cher à réparer? Est-ce que ça brise plus? Je sais pas.
Si, tu sais, on a des constructeurs qui ont eu des ratés majeurs avec ces transmissions-là, là, des ratés énormes. Là, ouais. Nissan fait partie de ceux-là où est-ce qu'ils ont produit des transmissions CVT qui ont littéralement explosé. Là, des problèmes de transmission majeurs. D'autres constructeurs qui n'ont pas eu de problème avec la technologie non plus. Donc, c'est un pour et un contre. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous recherchez l'économie de carburant, c'est une transmission à regarder. Si vous n'êtes pas nécessairement en quête de la meilleure économie de carburant, là, je suis pas en train de dire que votre véhicule va boire 25 litres au 100 parce que vous prenez une boîte automatique. Mm-hmm. Mais si vous aimez un peu plus la conduite d'un véhicule, je vous invite à aller voir une autre sorte de transmission plus automatique, justement. Ça va vous donner vraiment plus de senti à long terme, c'est clair.
Mais tu sais, juste de l'essayer, comme tu disais tantôt, tu sais, pas avoir un coup de foudre pour acheter tout de suite le véhicule chez le concessionnaire sans l'avoir essayé. T'es aussi bien de l'essayer, voir ce que c'est et après ça, de prendre ta décision.
On rentre des concessionnaires, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, là, on a un gun sur la tempe. Là. Je l'ai pas le char, je l'aurai pas le char avant que tu l'achètes. Là. Fait que, soit tu l'achètes tout de suite, tu le commandes ou il y en a un autre qui va le faire. Mais moi, je m'excuse, là, mais tu sais, dans la vie, mettons, quand je vais chez Costco, magazine télé, où je vais quelque part, là, je prends la peine de regarder la télé. Là,
exact.
Je regarde ses dimensions, si je la trouve belle, si l'écran est de mon goût, avant d'acheter une télé qui n'est pas un achat très important. Mm-hmm. Quand on parle d'une voiture, c'est un minimum de s'asseoir dedans, d'essayer la bonne transmission reliée au véhicule, si dans le cas d'une automatique ou d'une manuelle, et surtout de prendre le pouls à bord. Si vous ne faites pas ces étapes-là avant d'acheter l'un des plus gros achats que vous allez faire, j'appelle ça un achat quasiment impulsif, entre guillemets. T'sais. Et il faut prendre le temps de le magasiner, le véhicule, au minimum, puis s'assurer qu'il répond à vos besoins parce que vous allez être attaché à un financement pour quelques années encore, puis la vie est trop courte pour payer une voiture qu'on n'aime pas, là, clairement.
On parle des véhicules électriques, le gouvernement qui continue de rajouter des bornes et des bornes. On nous a déjà expliqué, tant du côté fédéral que du côté provincial, qu'il y avait une date limite là, pour ce qui est des véhicules à essence. On nous parle de 2035. Ouais. Certains partis politiques ont dit peut-être qu'on devrait devancer ça à 2030. Et là, le gouvernement dit oui, mais on n'est pas encore rendu là présentement. Quand je parle avec des électriciens, ils me disent Yann, oublie ça, ça se fera jamais. À la grandeur du Québec, le système n'est pas fait pour accueillir toute cette flotte de véhicules-là rapidement. Donc, on se fixe un objectif en espérant que les gens changent rapidement pour s'acheter des véhicules électriques, mais on sait très bien qu'on va devoir repousser un peu cette date-là. Au niveau de la demande, je ne sais pas c'est quoi le parc automobile au Québec, on est autour de quoi? 4-5 millions de véhicules. Imaginez-vous si on commande 4-5 millions de véhicules au Québec puis que le reste du Canada doit faire la même chose puis que les États-Unis embarquent à certains endroits, parce que je sais qu'il y a des endroits qui ne veulent rien savoir du véhicule électrique. T'sais, la demande va être tellement forte que même les constructeurs ne seront pas capables de répondre à ce besoin-là. Où est-ce que tu en es, toi, personnellement, quand tu regardes un peu le topo des véhicules électriques? Est-ce que tu te dis ça devrait bien aller ou tu te dis ça va être une catastrophe, jamais on arrivera à 2035 sans continuer de vendre des véhicules à essence?
Je vais y aller avec une réponse un peu politisée. Parce que je crois que c'est possible d'arriver en 2035 avec les véhicules électriques, mais je ne crois pas que l'ensemble des véhicules électriques vont être rechargés de la manière qu'on le fait actuellement. Je m'explique. On parle de la technologie à batterie ion beaucoup. Les batteries ion, là, qui sont les batteries au lithium qu'on voit dans les véhicules beaucoup, là, c'est les grosses batteries qui font en sorte qu'on a une autonomie restreinte sur les véhicules. Et on recharge ces véhicules-là avec un pistolet électrique qu'on rentre et qu'on recharge le véhicule.
Ouais.
Ça, c'est une manière de faire. On a besoin d'une énorme batterie pour emmagasiner le plus possible d'énergie, être capable après ça de faire fonctionner les moteurs électriques, puis ensuite faire bouger les chars. De l'autre côté, il y a d'autres technologies qui se développent qui vont être électriques, là, qui vont avoir besoin de moteurs électriques, de batteries aussi, mais de plus beaucoup petite taille parce qu'on veut utiliser de l'hydrogène pour le faire. L'hydrogène, présentement, c'est pointé du doigt par vraiment beaucoup de monde. Il y a plein de monde qui ne voit pas ça comme un avenir réel.
À Québec, on a une ou deux stations-service?
On en a une seule. À Québec, il y a un projet là, durant l'été là, qui est en cours encore, là, d'en mettre une au Saguenay, d'en mettre une autre de plus à Québec, d'en mettre une à Montréal, puis même une à Toronto, pour permettre aux gens qui ont des véhicules à hydrogène de faire un trajet entre Saguenay et Toronto. Ça, c'est un vrai projet là, qui existe, qui est sur la table, parce qu'on a une entreprise à Montréal qui s'est spécialisée dans l'hydrogène vert. faire. Le problème de l'hydrogène, c'est qu'on pointe cette technologie-là du doigt en disant c'est polluant. C'est la production de l'hydrogène devient très polluante, puis au bout de la ligne, on vient effacer le côté intéressant du véhicule électrique qui était d'être le plus vert possible. Ça dépend de la manière qu'on produit l'hydrogène. Quand on produit de l'hydrogène avec de l'hydroélectricité, on vient d'annuler le côté polluant de l'hydrogène. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on donne la possibilité de faire le plein, comme une voiture à essence, d'un combustible qui va aider le véhicule à fonctionner. Fait que cet élément chimique-là, on va le remplir dans une station, on l'emmagasine dans une tank, dans un réservoir, et c'est le réservoir qui crée la transformation d'énergie pour donner de l'énergie à la batterie qui, elle, va faire fonctionner les moteurs électriques. Fait que est-ce qu'en 2035, on pourrait se dire, on s'en va vers le, est-ce qu'on va réussir à avoir que des véhicules électriques? Je pense que ça peut être possible, mais il va falloir qu'on s'offre plus d'alternatives parce que parti comme c'est là, on ne produira pas assez de batteries pour venir à la demande avec les gigantesques batteries qu'on met dans les véhicules qui n'ont pas d'autre source d'énergie que les batteries. Tandis que quand on fait un véhicule à hydrogène, on a besoin d'une beaucoup plus petite batterie. Certaines statistiques parlent que tu as un véhicule électrique à grosse batterie pour trois véhicules hydrogène à petite batterie. Fait qu'avec la même quantité de métaux rares, on peut produire trois fois le véhicule électrique. Donc là, on commence à avoir quelque chose qui semblerait être intéressant. Tu sais, je vous parle de ça aujourd'hui, là, je fais partie de la gang un peu qui s'informe beaucoup du domaine.
Non, mais je trouve ça intéressant. On dirait que plus... tu me l'expliquais, puis je comprends peut-être un peu plus vers où on va s'en aller, puis je vois peut-être un meilleur avenir pour ce qui est du véhicule électrique d'ici 2035. Mais quand je parlais avec un électricien, il me disait, tu sais, Yann, prenons l'île des Sœurs. Je prends souvent cet exemple-là. Là, tu sais, c'est des édifices à condos qui ont de multiples étages, puis ils ont des gros stationnements. C'est plein de véhicules, à travers le stationnement. Faut-tu mettre des bornes pour que les gens puissent se recharger pendant la nuit? Le système électrique n'est pas fait pour ça. Puis, mettons que tu mets, tu as 300 véhicules, tu mets 150 bornes, ne me lèverai pas à 2 heures du matin pour aller changer mon véhicule de place pour laisser la place à un autre pour qu'il mette de l'électricité dedans.
Non, mais je pense que qu'est-ce qu'il va falloir voir, t'sais, autant je parle d'hydrogène, qui d'ailleurs existe depuis longtemps, là, c'est quelque chose qui existe depuis vraiment longtemps comme technologie dans l'univers automobile, mais on n'en parle jamais de ça. Il y a plein de monde qui disent que c'est rempli de scandales, cette affaire-là aussi. On verra. Comme je vous dis, je ne suis pas fan de l'hydrogène, mais je suis juste en train de me dire qu'il y a une manière d'aller là. Et pour les véhicules électriques classiques à grosse batterie qu'on connaît maintenant, ces véhicules-là, va falloir changer notre méthode de faire avec. Là, on a dans l'idée qu'il faut les connecter à la maison tout le temps. Il faut que tout le monde ait une borne individuelle à la maison pour les recharger. C'est ça l'idée qu'on a là, actuellement de la manière qu'on recharge un véhicule électrique. Je pense qu'on va devoir arriver rapidement dans la technologie à faire comme on fait là avec nos voitures à essence. Vous n'arrivez pas toujours le soir à la maison avec votre gaz plein.
Exact.
Il faut réussir juste à arrêter après ça dans une station puis remplir rapidement le gaz. Puis c'est un peu le même principe pour l'électrique. Je pense qu'il va falloir enlever dans nos têtes que tout le monde va devoir avoir accès à une borne à la maison. Ça n'arrivera pas. Il faut qu'on arrive à avoir des véhicules qui sont capables d'emmagasiner rapidement une grosse dose d'énergie avec des stations de ravitaillement d'électrique qui sont très performantes. Et si on réussit à faire les deux ensemble et qu'on refait un réseau de distribution fonctionnel, ça peut être correct. T'sais, je faisais un essai d'un Tesla modèle Y en hiver. J'étais capable de passer la nuit à moins 40 chez nous sans problème. J'avais perdu une vingtaine de kilos, mettons, en étant stationné chez nous, pas connecté. Puis le lendemain, je partais, il me restait encore 300 km d'autonomie dans mon véhicule. Je suis capable, d'après ça, d'arrêter rapidement, me recharger dans une borne de recharge rapide, puis de continuer à faire ma journée. T'sais, c'est pas impossible de le faire.
Borne de recharge rapide, ça prend combien de temps à peu près pour un Tesla?
Ça va dépendre des grosseurs de la recharge. Il y a des bornes jusqu'à 150 kWh. On a des bornes encore plus puissantes que ça qui sont beaucoup plus rares également. Mais quand on prend une borne performante de 150 kWh, on pourrait penser à peu près une vingtaine de minutes, 20 à 30 minutes. Ça va dépendre du style de modèle. Vous allez avoir du chargeur embarqué dans votre Tesla également. Il y a des voitures aussi plus récentes, là, des nouvelles voitures électriques qui maintenant, c'est comme de base. Il faut avoir un chargeur rapide. C'est un peu comme vos... Tu sais, les téléphones intelligents, là, il y a une époque, ça prenait une heure à charger notre cell. À cette heure, ça prend 20 minutes. C'est un peu le même principe. Puis maintenant, les voitures électriques qui arrivent sur le marché sont comme obligatoirement équipées d'un chargeur rapide. Mais maintenant, on va arriver encore avec des meilleures statistiques en Corée. Ils essaient des routes qui rechargent
au fur et à mesure,
On a vu ça aux États-Unis aussi. Tu sais, on est dans l'ébullition de ça. La seule affaire, c'est qu'avant de voir des routes qui rechargent tout seul, c'est pas dans 10 ans qu'on va voir ça.
Bien, au Québec, non.
Mais clairement. Puis c'est pour ça que le 2035, dans la formule, mettons que je prends le marché comme il est là, on n'arrivera jamais là. Si on ouvre la porte à essayer des nouvelles technologies, je parlais de l'hydrogène tantôt, peut-être qu'on peut y arriver. Maintenant, l'hydrogène, est-ce que c'est une vraie solution à voir et à suivre? Tu sais, j'ai pas une boule de cristal, je suis pas spécialiste de la mécanique d'hydrogène non plus. Mais quand des constructeurs comme Toyota, comme BMW, comme le groupe Hyundai avec Kia et compagnie produisent des voitures hydrogène dans le monde présentement, tu sais, je suis allé au salon de Munich il n'y a pas longtemps, puis BMW avait un BMW X5 devant moi, un VUS, tu sais, qui avait l'air du même VUS, mais qui était propulsé par l'hydrogène, puis les autres, ils le vendent, là, c'est un véhicule qu'ils vont vendre dans les prochains mois, tu sais. Ben, je me dis clairement, c'est pas des fous, ces gens-là. Tu sais, clairement, on n'est pas en train de faire une technologie pour juste la présenter dans un salon puis la faire disparaître. On veut la commercialiser un jour. Oui. Les véhicules lourds s'en vont vers l'hydrogène beaucoup. On parle beaucoup de ça dans le transport lourd, dans les gros camions, dans les autobus. L'hydrogène est vraiment une solution pour l'avenir de ces véhicules-là. On en parle énormément dans le transport lourd. Fait que je me demande pourquoi on ne pourrait pas le mettre aussi dans la formule transport léger. Maintenant, à voir et à suivre, comme je vous dis, faut viser 2035 avec beaucoup d'ouverture. Là, ce que je trouve dur, c'est qu'on essaie de parler d'une technologie aujourd'hui, puis quand t'es dans le clan des batteries, t'es dans le clan des batteries, quand t'es dans le clan du gaz, t'es dans le clan du gaz, puis my God, que c'est pas évident.
Là, ouais. Non, moi, je pense que juste le gros bon sens, on peut tous se jaser, là, puis trouver des diverses solutions, comme tu les as amenées. Je trouve que c'est tout le temps la meilleure façon d'amener les choses, puis de faire ressortir les meilleures idées. Hey, le coût moyen d'un véhicule au Canada, ça peut tourner aux alentours de 50 000, 60 000.
64 000 $ aujourd'hui.
Moi, je me souviens que dans les premières années où j'étais à l'université, il y avait un Hyundai Accent à 9 999 $, puis tout le monde avait des Hyundai Accent. La majorité, c'était gris, là, mais sinon, il y en avait des blancs, il y en avait des blanches, il y en avait des noirs.
Les GLS, c'était rouge avec un petit ouvrant, c'était ça allait vite.
Il y avait tout ça, puis... les gens réussissaient à s'acheter des véhicules. Là, à 64 000 $ de moyenne, il y a des gens qui ne seront plus capables tout simplement de se trouver des véhicules.
C'est ça qui fait peur beaucoup. Tu sais, qui va finir par réussir à s'acheter des véhicules à un moment donné? Puis qu'est-ce qu'on veut faire avec des prix aussi élevés? Est-ce qu'on veut empêcher le monde un jour d'avoir chacun une voiture? T'sais, clairement, on sait que l'automobile est une cause majeure de la pollution. Là. Ça, on l'enlèvera pas, puis c'est un fait, là. Point. Bon, on essaie d'amener des nouvelles technologies pour rendre le tout plus écologique, mais est-ce qu'on veut réussir à rendre ces technologies-là assez abordables pour au moins garder l'idée qu'on peut tous mettre la main sur un véhicule, même si c'est pas le véhicule de nos rêves, au moins avoir un minimum? C'est ça qui est inquiétant de voir, parce qu'effectivement, à 64 000 $, pour vous donner une idée, là, en 2019, on était autour de 32 000, la moyenne canadienne. C'est le double du coût moyen d'achat de véhicules neufs qui s'est passé depuis le début de la pandémie. On est en 2023, c'est en 4 ans qu'on a augmenté le double du coût. C'est ahurissant. On n'a jamais vu ça, un coût moyen aussi élevé que ça. Puis ça m'amène à dire, où c'est qu'on s'en va? Où c'est qu'on s'en va avec ça? Parce que j'ai un feeling, sincèrement, qu'on va commencer à rendre la voiture beaucoup trop élitiste. On va avoir de la misère à avoir une voiture du peuple. C'était le nom de Volkswagen à l'époque. Mais
la voiture du peuple.
On s'en va plus vers là, à 64 000. Là.
Mais est-ce que les gens demandent ça, toutes ces technologies-là à l'intérieur du véhicule, tous ces capteurs-là, tous les trucs qui vont faire en sorte que ça va faciliter ta vie ou pas, ou qui va te sécuriser tant que ça? Tu sais, je regarde ça, puis... Tu sais, tu fais juste un petit accident des fois, puis ils te disent, hey, c'est 4 800 $ ce morceau-là. Celui-là, c'est 1 200. Mais attends un peu, là, je l'ai juste à côté, là, sur le bumper. Là. Ah, mais c'est ça, monsieur, aujourd'hui, les coûts. Tu dis, attends un peu, là. On va faire quoi, tu sais? Ils vont-tu revenir à... On va sortir un char de base, là, puis au gros pire, notre client, il va prendre ses bras, puis il va ouvrir ses fenêtres comme on faisait dans le temps, tu sais, avec la fameuse manivelle.
Ben, le problème, c'est qu'on les achète quand même, les chars. Pis c'est ça le problème actuellement. Je te dirais, tu sais, est-ce que les gens les demandent, les technologies? Pas toutes. Moi, je pense pas qu'il y ait personne qui s'est levé le matin en disant, moi, mon plus grand rêve, c'est que mon char, quand je le cruise control, il reste entre les deux lignes tout seul. Moi, c'est mon plus grand rêve. Je veux que mon char fasse ça. Peut-être que oui, là, mais la moyenne du monde...
On a tous connu des blondes comme ça.
mais la moyenne du monde, c'est pas ça, tu sais. Les gens me parlent de banc chauffant, d'Android Auto ou d'Apple CarPlay. Là, les gens me parlent des affaires assez basiques, tu sais. Ouais. C'est vraiment rare, j'entends dire. Moi, mon rêve, c'est que mon char, quand il voit un stop, là, il me disent dans le tableau de bord, ils me disent qu'il y a un stop qui s'en vient, tu sais. Mm. Ouvre les yeux, là, regarde devant toi et tu vas le voir. Le stop, là, crème, t'es au volant de char, tu sais.
C'est ça.
C'est rare qu'on entend parler de ça. Puis ces technologies-là sont maintenant de base dans plusieurs voitures. Mais la raison pourquoi ils sont là, c'est qu'on justifie la pourquoi on vous le vend aussi cher que ça, le véhicule. On s'en va vous dire, ouais, mais tu sais, ce véhicule est plus cher qu'il était. OK, mais il est tellement rendu sécuritaire, là. Il vous avertit quand il y a un stop plus loin, okay. Puis il vous avertit quand quelqu'un marche à côté de votre voiture, puis il vous dit plein de choses sur votre sécurité. Là, on a vraiment mis le mot sécurité en avant-plan. Tu sais, on voit des publicités disant qu'un système quatre roues motrices, là, c'est la manière de se déplacer en toute sécurité. En hiver. C'est comme ça qu'on se déplace en sécurité. Mm-hmm. On se déplace plus efficacement. Je suis d'accord. C'est pas plus sécuritaire d'avoir un système 4 roues motrices.
Ah non?
Vous avez non, parce que quand vous allez freiner comme si vous avez un char 2 roues motrices. Là.
Ouais.
Ça change rien. Là. Le breakage, le volant ou la conduite va ressembler beaucoup à d'autres genres de véhicules. Est-ce que c'est plus sécuritaire? Je dirais jamais ça. T'sais.
Mais tu sais, un gars qui commence à conduire là, qui a de 16-17 ans, il embarque dans un véhicule à 64 000 $ là. On dirait qu'il n'y a pas les mêmes réflexes que nous autres quand on a commencé avec notre permis de conduire où il fallait faire nos angles morts, on était capable de se parquer de reculons, on était capable de se parquer entre deux véhicules.
Tu tourner la tête?
Non, il suffit ces lumières de miroir.
Oui, puis même la caméra de recul, pour qu'il ait un char, on se tourne pas la tête, c'est fini. Ça, là, c'est pour vrai, les gens embarquent dans les voitures aujourd'hui. Moi, ce qui me fait le plus impressionner, c'est que les gens s'assoient, ils vont ajuster la couleur des lumières en dedans, ouais. Plugger leur téléphone, choisir leur meilleur tune, puis ben. Fin de l'histoire. Ils n'ont jamais regardé l'environnement autour d'eux.
Les miroirs, on s'en sac.
Non, on s'en va. Le véhicule va faire le reste. Puis, tu sais, ça, c'est un autre débat, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui prônent les véhicules autonomes en disant justement, on va venir régler beaucoup d'accidents de voiture, on va venir régler beaucoup de choses. Je pense que c'est vrai. C'est vrai que si les véhicules deviennent de plus en plus autonomes et qu'ils sont mieux équipés de systèmes de surveillance un peu partout, on va éviter plus d'accidents. Je pense que c'est logique. C'est une addition simple à faire. Par contre, j'ai tendance à avoir espoir, puis juste de dire, on peut-tu apprendre à tout le monde à continuer à mieux conduire, à garder des bons réflexes? On peut-tu remettre de l'emphase sur faites vos angles morts? On peut-tu continuer à dire aux gens, vous êtes au volant d'une voiture, vous avez des responsabilités? C'est ça, ce bout-là, on dirait qu'on le délaisse de plus en plus. Tu sais, on va parler des pas conduire en état d'ébriété, c'est correct, mais on parle plus de juste conduire la voiture. Êtes-vous capable de la conduire, point à la ligne? Quand je vois quelqu'un qui se fie tellement à ses assistances électriques autour de lui, électroniques, technologiques, je me dis, comment on fait pour dire que cette personne-là sait conduire une voiture? Ouais. Je pense qu'on n'est pas sur cette ligne-là. Hein.
Mais tu les vois sur l'autoroute, là, les gens, tu sais, bon, on met le clignotant, on fait pas l'angle mort, on regarde dans notre miroir, mais on regarde pas le miroir, on regarde sur notre miroir, puis là, il y a une lumière qui est allumée, ça veut dire qu'il y a un char qui arrive par sa gauche, fait que c'est pas le temps de prendre la voie de gauche. T'sais, les gens conduisent de plus en plus mal, c'est ce qui est hallucinant, alors qu'on devrait peut-être s'améliorer, les gens conduisent de plus en plus mal. J'en jasais avec mes collègues cette semaine, t'sais, ce que je vois régulièrement, c'est des gens qui voyagent sur la voie de gauche, sur l'autoroute.
Oui.
Ça arrive souvent le samedi puis le dimanche. La semaine, on dirait que les gens sont tellement habitués de prendre la route qu'eux autres sont... OK, ben c'est vrai. La voie de où on voyage, c'est la voie du centre. Puis la voie de dépassement, c'est la voie de gauche. Mais la fin de semaine, hey, des fois, monter en Beauce, là, c'est pénible. Tu as un char sur la voie du centre qui est à 100 km/h, puis tu as l'autre qui est à côté qui est à 100 km/h, puis tu te dis, mais n'as-tu un qui va se rendre compte à un moment donné qu'il y a du monde en arrière?
On dirait deux camions qui essaient de se dépasser.
Ils essaient de se faire des babayes. Oui, c'est autour des fenêtres, là, ils se font des babayes.
Non, puis tu sais, ça, puis j'ai remarqué aussi un comportement dernièrement qui. Je fais plus de grandes routes, là, je vais souvent à Montréal, puis ce que je vois souvent, c'est que les gens, me semble, puis c'est peut-être moi qui pris connaissance de ça, là, mais quand je suis dans la voie de gauche, puis il y a quelqu'un qui arrive qui est moins vite que moi, tu sais, moi, ralenti, là, je vais faire attention, puis on laisse la personne faire son dépassement, même si des fois c'est périlleux. Là.
Ouais.
Mais j'en remarque que beaucoup de gens qui n'ont plus la patience d'attendre, la voie de droite là, est tellement utilisée pour dépasser aussi, là, la quantité de monde qui
dépasse par la droite,
qui essaie de me dépasser, moi qui attends après une autre voiture, pour me couper, puis finalement c'est pas moi qui roulais pas vite, là, c'est l'autre personne en avant. Bref, la quantité de gens qui dépassent par la droite, je trouve que ça a augmenté énormément aussi. Est-ce que c'est différent d'avant? T'sais, j'ai pas les stats pour appuyer quoi que ce soit, mais chose certaine, c'est que la conduite s'améliore pas. Ça, c'est clair, puis après ça, j'ai de la misère à être contre les autorités qui disent « Vive la voiture autonome, on va régler des problèmes. » Quand on voit comment le monde conduit actuellement, c'est sûr que je peux comprendre que la venue de la voiture autonome va être intéressante pour la sécurité de tous.
Oui, parce qu'il va y avoir... En tout cas, c'est ce qu'on nous avait mentionné il y a quelques années, puis moi, j'avais retenu ça, je trouvais ça franchement intéressant, c'est que les véhicules allaient être interconnectés ensemble.
Oui.
Donc, dans le trafic, exemple, les véhicules vont se placer de façon à...
Optimiser le plus possible le mouvement.
Exactement. Ouais. Ça, je veux dire, ça va faire toute une différence. Mettons, à hauteur des portes, pont. Là.
On va régler
les
problèmes de trafic.
Les gens qui coupent tout le temps pour rien, qui font freiner tout le monde, puis finalement, toi, t'es le gars en arrière dans la côte sur un 4. Voyons, qu'est-ce qui se passe en avant?
C'est ça, le monde se bat ses breaks. Là.
Mais cette technologie-là va permettre aux véhicules de faire comme un effet de zipper. T'sais, tout va se clipper les uns des autres, puis ça va aller beaucoup mieux pour avancer.
Allons voir à quand, où et comment ça sera fait. c'est beaucoup, beaucoup de questions. Là. Mais
moi, je vais promettre à le cave qui a c'est un char qui est beaucoup trop vieux pour essayer de comprendre ce qui se passe puis qui va être dingue.
Oui, mais c'est ça l'affaire, c'est que comment tu fais pour dire à tout le monde à partir de maintenant, c'est fini, toutes les voitures doivent être autonomes sur la route. Est-ce qu'il va y avoir des routes exclusives pour les voitures autonomes, des routes mélangées? Est-ce qu'on va. Il y a encore tellement de questions à se poser. On n'est pas rendu.
Donne-leur pas d'idée.
Non, je veux pas faire ça. Là. Non, faites pas ça. Mais tu sais, c'est surtout de voir où est-ce qu'on s'en va avec cette technologie-là, je le sais pas. Mais j'en reviens sur mon point juste de dire j'espère juste que les gens prennent conscience de l'importance d'être capable de bien conduire une voiture, puis juste de ramener ça en avant-plan. C'est vrai que le monde conduise moins bien qu'avant. Je trouve que ça paraît sur la route, vraiment. Puis je trouve ça important d'en parler, juste de le dire.
Oui, puis ça paraît encore plus quand tu jases avec des camionneurs qui font du US. Là. Eux autres, ils savent qu'ils sont arrivés au Québec pas en raison des pancartes, en raison de la conduite des Québécois. Cela dit, je vois un beau produit depuis quelques années sur nos routes. J'ai l'impression qu'il est de plus en plus populaire. Genesis.
Oui.
Ça, c'est la marque de Hyundai, c'est ça?
Exact. Okay. La marque de luxe de Hyundai qui est arrivée un peu comme Honda Acura, comme Infiniti Nissan, Lexus Toyota. Dans le fond, tout ça, c'est des groupes qui appartiennent aux constructeurs. Fait que, c'est le même principe. Hyundai ont lancé leur marque de luxe.
Mais on dirait que ça s'est amélioré rapidement avec Genesis.
C'est peur, hein? Moi, mettons, être chez Toyota aujourd'hui là, ou chez Acura, là, je me poserais des sérieuses questions sur notre développement du véhicule parce que c'est pas des constructeurs qui vont pas bien. Là. Honnêtement, Lexus et Acura font des produits qui sont extrêmement intéressants aussi. Là.
Mais Genesis, pour avancer si rapidement, ils ont-tu été chercher des gars, des filles qui étaient ailleurs pour essayer de leur voler certaines parties de la technologie puis ça avance?
Des designers de Audi, de BMW. Ouais. On est allé voir du monde de chez Volvo. On est allé voir des gens spécialisés dans le design des véhicules. Et on a surtout créé une marque qui, honnêtement, en son sens, est simplement hallucinante. Tu sais, quand on y pense une seconde, le Genesis est arrivé en 2015 officiellement sur la nomenclature Genesis Motors. On avait connu des voitures dans le groupe Hyundai qui portaient le nom de Genesis. On a eu la Genesis coupée deux portes, qui est une voiture un peu plus jeune, dynamique, propulsion. Mais on a aussi la Genesis qui était comme une voiture berline de luxe. Fait que c'était comme la voiture la plus luxueuse pendant un certain temps dans le catalogue Hyundai. Et à un moment donné, on a séparé le produit, la Genesis, la voiture, et on a créé la marque Genesis en 2015 qui, là, est arrivée comme étant une nouvelle bannière. Mais tu sais, en 2015... Ça fait même pas 10 ans qu'ils sont là dans le marché. Et on a célébré cette semaine leur millionième véhicule vendu.
C'est majeur.
Non, mais c'est majeur. C'est dur de vous l'expliquer puis de juste vous le figurer. Là, mais tu sais, j'ai pas les chiffres de combien de temps ça a pris à Lexus pour vendre un million de véhicules. Là, mais je vous confirme que ça a pris beaucoup plus que 10 ans pour réussir à faire cet exploit-là pour plusieurs raisons. Entre autres, les véhicules aujourd'hui se produisent plus rapidement. Mais honnêtement, c'est hallucinant quand nous, cette année, Genesis a réussi à dépasser le cap du million. Ils vendent de plus en plus de véhicules dans les marchés coréens. Là, c'est en Corée du Sud qu'ils vont le vendre de plus en plus.
Ouais.
Mais ils ont réussi à percer des brèches ici aussi qui sont assez hallucinantes. Leurs véhicules ont gagné meilleur véhicule de l'année selon plusieurs journalistes l'année passée. Le GV70, leur petit VUS utilitaire compact, qui a gagné des prix sans bon sens pour le design, mais son efficacité aussi générale. On a sorti des véhicules électriques. Le GV60, qui est un peu une Hyundai Ioniq 5, si vous voulez, l'espèce de voiture électrique chez Hyundai, mais qu'on a converti en petit VUS de luxe, qui coûte plus cher, mais qui est hallucinamment bien construit et qui répond exactement aux demandes des consommateurs de luxe. Là, on est vraiment là. On a comme une espèce de sphère qui vole dans le centre du véhicule pour sélectionner nos vitesses. C'est hallucinant. Là. J'ai remarqué là-dedans, j'étais comme... Wow.
Puis moi, je suis pas dans le merveilleux monde de l'automobile, mais j'avais toujours l'impression qu'Hyundai, c'était un peu plus cheap. J'avais l'impression qu'Hyundai, c'était un peu plus cheap. Puis depuis que les Genesis sont là, je me dis, peut-être qu'un jour, ce serait le genre de produit qui m'intéresserait. T'sais.
C'est hallucinant. La place qu'ils ont pris avec ça, puis tu sais, sont là, les véhicules sont intéressants à conduire, au point que plusieurs articles ont été faits sur ces véhicules-là, puis les titres n'arrêtent plus de se ressembler du genre, attention, compétition, nous sommes là. Genesis existe dans le domaine, sont présents, produisent des bons véhicules. Je n'ai pas donné mon âme au diable. Je suis pas en train de vous dire ça parce que je suis un fan de Genesis. Je suis en train de vous dire ça parce que je pense sincèrement que cette compagnie-là était impressionnante à voir aller et qu'en dedans de 10 ans d'avoir réussi à prendre une place aussi importante sur le marché, c'est pas rien. C'est vraiment impressionnant de voir ça. L'avenir est prometteur pour cette entreprise-là qui a déjà déclaré faire un mouvement vers l'électrification majeure.
Ouais.
Les Coréens sont extrêmement rapides. On a des produits extrêmement populaire dans l'électrique. On pourrait penser au Kona électrique, la Hyundai Ioniq 5, le Kia EV6 aussi, le Kia Niro. C'est tous des produits électriques qui sont franchement populaires. Et c'est le même groupe, Kia Hyundai, ils s'appartiennent. Là. C'est comme la même compagnie, si vous voulez. Les deux travaillent séparément, ils ne veulent pas se parler, mais sont le même propriétaire. Ils vont utiliser beaucoup de composantes des deux pour créer leur véhicule. Mais dans tout l'ensemble, voir les Coréens avoir pris autant de place, ça me donne l'envie de dire qu'on est dans l'ère coréenne. T'sais, on a vécu l'ère américaine, l'ère allemande, l'ère japonaise.
Ouais.
Là, on est dans l'ère coréenne depuis quelques années, puis ça paraît. Là.
Est-ce que les autres vont être capables de s'adapter?
Ils auront
Ford,
pas,
là, exemple.
Ils n'auront pas le choix de suivre. Puis on le voit, là, les décisions sont prises différemment aussi. Là, on mettait de l'emphase sur des argumentaires différents il y a quelques années, sur les capacités, sur ces choses-là.
Ouais.
Puis quand les constructeurs coréens sont arrivés avec une mentalité beaucoup plus sur le design des véhicules, il y a un véhicule en particulier que je trouve qu'il est un bon exemple, mais la Hyundai Elantra 2012. C'était en 2012, on a sorti la nouvelle Hyundai Elantra qui était beaucoup plus élancée, ouais. Plus longue.
On en voit encore sur la route beaucoup.
On en a encore beaucoup sur la route de ces véhicules-là. Mais le design de ce véhicule-là, si vous avez du temps, là, prenez vos. Si vous n'êtes pas au volant, là, mais prenez votre téléphone, allez voir, comparez la Honda Civic 2012, la Hyundai Elantra, la Toyota Corolla, la Volkswagen Golf, comparez les voitures compactes de cette année-là avec la Hyundai Elantra, et dites-moi pas que c'était pas impressionnant. Tu sais, comme le design de ce véhicule-là était à des années-lumière des autres, on avait de la technologie, on avait de l'équipement à bord, un prix super compétitif. On a eu des ratés avec les 2 litres, là, on a eu des problèmes à parler de mécanique, là, ça on en reparlera dans le jour. C'était pas parfait, là. Je suis en train de vous dire que la recette était parfaite, mais sur le coût en 2012, c'était quand même un uppercut qu'on venait de faire dans le marché en disant on est là, là, on existe, on va être là, puis on va prendre la place. Et ça n'a que continué d'évoluer pour les Coréens. En 2014, quand Hyundai ont acheté leurs propres usines de matériaux, dans le fond, eux autres produisent leur propre acier, ils nous parlaient des conférences de presse. Ah, vous allez voir, nos voitures vont être plus rigides, vont être plus solides. Puis comme, ouais, c'est ça. Allez voir les crash tests de ces voitures-là. C'est possible d'aller voir ça sur Internet, sur YouTube. Là. Comparer un Kia Soul 2013 puis un Kia Soul 2015, là. Dans un, tu étais magané après un impact, dans l'autre, tu t'en sors sans problème. Là. Puis c'est assez impressionnant de voir à quel point ils ont appliqué rapidement des recettes pour rendre leur véhicule plus efficace. Je me répète, c'est pas parfait. Il y a des gens qui vont m'écouter, c'est des guenilles, ça brise tout le temps, j'ai des problèmes avec ça. Je suis pas en train de vous dire que la recette est parfaite, mais je suis en train de vous dire que l'ascension vers l'amélioration est assez impressionnante et Genesis fait clairement partie de ce succès-là. Cette brand-là qui est méconnue encore, mais qui prend de la place de plus en plus. On en voit ses routes de plus en plus.
Hey, moi, il y a des véhicules que je trouvais laid dans le temps. On n'en voit plus, les fameux Pontiac Aztec.
Oui!
Tu te souviens-tu de
ça? Moi, je l'aimais.
Tu l'aimais?
Ben, écoute, moi, j'ai aimé le Nissan Juke. Non, puis j'ai aimé le Element aussi chez Honda.
Mais toi, t'es un peu funky.
Oui,
là,
mais
tu sors de l'ordinaire.
J'aime les designs différents. Fait que, tu sais, je suis pas un bon public cible. La moyenne des gens ont détesté le Aztec.
Puis un véhicule, c'est Marcel Aubut qui avait ce véhicule-là, qui est l'ancien président des Nordiques de Québec, un Prowler.
Oui!
Tu te souviens-tu du Plymouth Prowler.
Le Plymouth Prowler, très bien, oui, vraiment.
Hey, j'en ai revu un, peut-être, il y a 2 ans. Il était sur la 73 en Beauce. Je me suis dit, attends un peu, là, lui, c'est sûr qu'il sort pas ça souvent. Là.
Non, mais c'est un char d'été, là. C'est une voiture, mais c'est une Hot Wheels.
Oui, c'est ça.
T'achètes une Hot Wheels.
Avec la roue à part.
Ah, oui, les roues séparées, comme un peu les 2 antennes en avant. Là, ça faisait comme une bébite. Là. Mais moi, pour vrai, comme je te dis, c'est osé. Tu sais, j'aurais peut-être jamais acheté ça. Pense au Chevrolet HHR aussi. Je sais pas si tu t'en souviens de ce véhicule-là. C'est une espèce de petit véhicule utilitaire, c'était pas un VUS, là. Il est assez long, un peu comme un corbillard un peu, mais il avait des drôles de yeux en avant ronds. En tout cas, c'était un drôle de véhicule aussi, des designs particuliers qui avait fait.
On dirait que tu me parles des fameuses coccinelles avec des cils, là.
Oui.
Volkswagen coccinelles qui ont fait des dernières années. Là. Puis là, il y a des gens qui allaient chez
Fiat,
Canadian Tire.
Les Fiat aussi, les gens mettaient ça sur leur Fiat, les Fiat 500, les petits cils.
Ils allaient chez Canadian Tire, mettaient des cils sur leur. Tu peux pas emprunter le char à ta blonde, c'est impossible.
Non, non, mais putain, écoute, c'est sympathique.
Tu vas te faire voir par tes gars à Game Dog. Ils vont tous t'insulter. Ils vont dire, t'as pas le char à ta blonde.
Oui, ça, c'est sûr.
Mais, mais des chars, là. Ah ouais, mais Aztec, t'as aimé ça, toi?
Moi, j'aimais ça. Hey, c'était pratique, un Aztec. Tu pouvais faire du camping là-dedans. Il y avait une tente intégrée que Pontiac vendait. Moi, je vous le dis, là, Pontiac ont sorti ce véhicule-là trop tôt. Il était avant-gardiste parce que, tu sais, le design des lumières à l'avant aussi de cette auto-là, là, c'était deux lumières séparées. T'sais, on avait comme une première série de lumières sur le capot en avant, puis t'en avais une autre petite en dessous. C'était pas un monobloc de lumière. Et dans l'industrie aujourd'hui, on voit ça partout. Tu sais qu'un Jeep Compass, ils ont deux blocs de lumière séparés, ou les Hyundai Kona qui ont les deux blocs de lumière séparés. Ouais. C'est un design qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Puis à l'époque, c'était vraiment trop, là. C'était trop, c'était une grosse dose d'audace, mais beaucoup trop intense. Puis ça l'a mené un peu à la perte de Pontiac, honnêtement. Quand ils ont sorti ce produit-là, les communications, les voyages de presse qu'ils ont fait, ils ont tellement pris de la place dans l'actualité parce qu'ils voulaient... C'était le produit qui était censé révolutionner la marque. Ça n'a pas été succès.
Je suis allé voir dans les questions qui nous avaient été posées la dernière fois que tu étais passé, puis il en restait une. Un auditeur qui te demandait qu'est-ce que tu penses des produits Fiat.
Oh, OK. Bon, on va y aller.
Ça, t'aimes ou t'aimes pas?
C'est pas une question. Puis là, je veux qu'on se parle bien honnêtement. Okay? On va se parler de. Moi, mettons, Fiat, on fait des produits que j'ai adorés.
Ouais.
La Fiat Abarth. Qui est l'édition sportive de la petite 500, est hallucinante. Ce petit produit-là, c'est vraiment quelque chose. La seule affaire, c'est que Fiat, malheureusement, sur le marché, du moins en Amérique du Nord, ont voulu rentrer avec une idée d'amener un design un peu plus italien, quelque chose de différent, puis c'était sympathique, mais ils n'ont pas réussi à atterrir avec une marque qui était aboutie au niveau de la fiabilité, au niveau de la conception générale de ces produits-là. Des voitures qui, aujourd'hui, quand on regarde leur catalogue, n'ont rien de vraiment intéressant. T'sais, Fiat va sortir la prochaine 500, la petite électrique, qui va arriver sur le marché. Elle va arriver. C'est son premier véhicule qui va arriver. Il va arriver au début de l'année 2024 en version électrique. Je trouve ça intéressant. T'sais, ça commence à être une petite voiture de plaisance électrique. Je trouve ça le fun. Mais si on regarde présentement dans le catalogue de Fiat, il reste seulement le Fiat 500X comme produit actuellement. Donc aujourd'hui, vous allez sur le site de Fiat. Il y a beaucoup d'options que je vous conseillerais avant un Fiat 500X.
Ouais.
C'est un véhicule qui ne vaut pas la peine nécessairement d'être magasiné actuellement. On n'a pas d'argumentaire solide. Tu sais pourquoi vous iriez vous acheter un Fiat 500X? J'ai aucune raison. C'est pas un produit moins dispendieux, c'est pas un produit mieux abouti, c'est pas un produit plus performant, c'est pas un produit qui vaut la peine nécessairement d'être acheté. Puis dans les chiffres de vente, on le voit aussi, tu sais, il n'y a pas grand monde qui achète du Fiat. Là.
Ouais.
Je pourrais vous sortir les chiffres rapidement, là, mais tu sais, c'est hallucinant de voir en 2022 la quantité de Fiat qui ont été vendus, c'est très, très peu. Fait que, mon opinion là-dessus, je vous dirais, attendons de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec la brand. C'était un premier bon coup qu'ils ont fait. Puis, tu sais, quand ils ont sorti la petite 500, c'était le fun de la revoir, revenir sur le marché, décapotable, version performance. C'était le fun, c'était correct. Là, on est rendu dans un nouveau cycle. C'est comme, il faut que la marque revive de ses cendres. C'est comme un phénix, Fiat. Là. On a fait son cycle de vie, on va renaître de nos cendres puis revenir plus fort, j'espère, du moins pour l'entreprise. Ou sinon, une chose qui pourrait arriver aussi, c'est que Stellantis, qui est le groupe qui possède Dodge, Jeep, Chrysler, c'est eux autres aussi qui possèdent Fiat, vont simplement tirer la serviette en Amérique du Nord, vont mettre Fiat sous sellette, puis vont prendre les produits de Fiat, les importer via Jeep, via Chrysler, via d'autres brands, puis vont les vendre sur une autre appellation simplement. C'est quelque chose qu'on pourrait voir arriver aussi dans les prochaines années.
Parfait. Puis je me souviens pas d'avoir parlé de ça la dernière fois, mais c'est une question qui nous avait été posée. Est-ce qu'on avait parlé après le Salon de l'Auto de Québec? Ça pourrait peut-être être la raison pour laquelle j'avais eu cette question-là, mais je la trouvais quand même pertinente. Concessionnaire auto qui va s'établir à Québec, ou si ce n'est pas déjà fait, là, les McLaren.
Oui.
On avait parlé avec M. Sirois au Salon de l'Auto de Québec, puis il nous mentionnait que, bon, il y avait plusieurs McLaren qui étaient disponibles à Québec, qui avaient déjà commencé à en vendre. On parle de véhicules, tu sais, qui coûtent pas, qui coûtent très cher, en fait. Là,
oui.
C'est des investissements. Ce que M. Sirois me disait, c'est que la plupart des gens achètent ça, laissent ça dans le garage, les sort deux, trois fois par été pour aller manger une crème molle avec le blonde, puis après ça, remettre ça dans le garage. Puis ces véhicules-là, avec le temps, prennent de l'argent, ils prennent de la valeur.
Oui.
Ça serait-tu ton genre de voiture? Ça, c'est la question qui t'était posée. Est-ce que toi, t'achèterais ça aujourd'hui?
Non. Puis simplement, pas parce que je les aime pas, ils sont 40. Là,
ben moi, c'est les entendre quand ils passent à côté de toi.
Moi, je vois ça, je bave. Là, écoute, je suis un labrador qui s'est fait servir sa gamelle. Là, je bave. C'est incroyable. T'sais, j'ai rien contre ces produits-là. Est-ce que personnellement, j'irais m'en acheter un? Pas vraiment, pour la simple et unique raison de dans ma vie, là, j'ai un bébé, j'ai une famille, j'ai envie d'avoir quelque chose, m'amuser, vivre un trip, mais d'être capable de le partager aussi.
C'est ça. T'as l'argent, mais la poussette de bébé rentre pas, fait
non,
que tu peux pas acheter une McLaren.
Mais c'est quoi? Puis c'est humble en mort, là, mais j'ai toujours trippé sur les chars que je pouvais m'acheter.
Okay.
J'ai toujours eu cette trip-là. Tu sais, une 357, tantôt, je te disais, c'était mon char préféré.
Ouais.
C'était achetable, là. C'était pas dans les Ferrari F40 ou les
c'est
affaires.
Ça.
j'ai toujours aimé les autos que j'étais capable de me procurer parce que si je peux pas croire à ça un jour de l'avoir dans mes mains, on dirait que je suis pas capable de l'aimer. On dirait que je suis quand même. Puis là, tu sais, McLaren, c'est une voiture exotique. Là, on est dans une autre gamme. Là, on est vraiment, vraiment dans une autre gamme. Véhicule extraordinaire. J'ai rien à dire sur un McLaren. Ça. D'ailleurs, si jamais M. Sirois veut m'en faire conduire une, ça va me faire plaisir de faire un bel article sur ce véhicule-là. Mais tu sais, j'ai juste pas envie d'avoir ça personnellement. Je peux pas être là. De toute façon, l'entretien de ça, c'est plus cher que ma maison. Je peux pas me permettre ça. Là. Fait que, pour ces raisons-là, j'en aurais pas.
Ben, c'est sûr qu'un set de frein là-dessus, ça doit être.
Un set de frein avec même le changement d'huile doit être assez particulièrement élevé. Là, je te dirais, là, on n'est pas obligé d'aller si loin que ça dans l'entretien.
Ouais, c'est ça.
Et je t'ai sorti les stats du Fiat 500X en 2022 là, au Québec, et s'en est vendu 10 dans toute la province versus 1370 Kia Soul qui sont compétiteurs dans la même catégorie. Là.
Mais c'est pas viable. Là,
c'est pas viable, oubliez ça. Là, présentement, les 10 qui sont là, c'est des gens qui ont peut-être retourné une location, qui ont une bonne affaire. T'sais, les gens qui ont fait ça, d'ailleurs, il faut savoir, vous n'avez pas fait un mauvais choix. Je veux pas, si donc, vous êtes parti des 10 personnes qui ont acheté en 2022 qui m'écoutaient présentement, vous n'êtes pas dans la rue non plus avec ça. Je pense que c'est pas ça mon point. Si vous avez l'intérêt d'avoir ce produit-là puis qui vous tente, là, c'est le véhicule du design de vos rêves, bon, pourquoi pas, louez-le. Vous l'aurez un certain temps, mais tu sais, si vous n'êtes pas nécessairement attiré plus qu'il faut, puis c'est un peu comme, oh, faudrait j'aille voir, vous n'êtes pas bougé. Il y a vraiment des options dans le marché qui sont mieux abouties selon moi, mais c'est pas un produit pour autant dénigrant.
Samuel Tremblay, Michaud, il y a des podcasts qui s'en viennent sur les zones de Boulevard, des podcasts qui vont être disponibles sur l'application BLVD ainsi que sur notre site Internet. Tu vas nous parler de quoi dans ces fameux podcasts-là?
Et ça va être le fun. On va jaser de voitures, bien évidemment, mais on va parler de l'entretien d'un char de course automobile. On parle avec des passionnés, puis comment je l'ai monté, c'est que j'ai toujours quelqu'un avec moi. Fait que je suis allé chercher des spécialistes, puis ça, c'est ma petite catchphrase que je dis tout le temps.
Des spécialistes et des passionnés.
Exactement. Ouais. Parce que moi, je dis toujours, c'est pas parce que je suis journaliste automobile que je connais tout du domaine. T'sais, souvent, on a l'impression qu'on connaît tout de tout. Mais il y a des gens qui sont tellement passionnés puis spécialisés dans un volet de ce merveilleux monde-là qui sont tellement intéressants à entendre. Puis j'ai sorti plein de monde. On va parler d'entretien de voiture, de nettoyage, des bonnes techniques de nettoyage. J'ai une vedette TikTok qui va venir nous jaser de ça. Ça va être intéressant. On parle de véhicules de collection avec. D'ailleurs, c'est l'émission de ce soir qui va commencer bientôt. Je peux-tu le teaser?
Ben oui, ça sert à ça.
On va le teaser, là, tu sais. On va parler avec Gérard Deltel, le député, qui va venir nous jaser de sa Manic GT, une voiture produite en chaîne au Québec. C'était la seule voiture produite en chaîne qui a été faite dans toute l'histoire du Québec. Et il y en a une.
Puis M. Deltel a ça.
Il y en a une que lui a reconverti. Il a travaillé fort sur ce projet-là. C'est vraiment intéressant de l'entendre puis de voir à quel point il était sur le bout du rouleau un bout de temps avec ce char-là. Mais il l'a remis au monde puis il est monté avec voir les barrages de la Manic dans son Manic GT.
Wow.
Fait que vraiment cool comme histoire puis vraiment une belle rencontre. Fait que c'est un podcast qui va être très accessible. Mais si vous aimez les voitures, vous allez pas être. Tu sais, on tourne pas juste sur la surface, on rentre aussi dans le domaine. On parle de pièces, de mécanique, on va parler de plein de choses. Je pense que ça va être le fun. J'espère que vous allez aimer ça.
Ben oui, c'est sûr.
C'est mon plus grand souhait.
Puis, tu sais, toi, t'es excellent. Puis, Gérard Deltel est excellent aussi. Puis, c'est un très bon raconteur.
J'ai eu beaucoup de plaisir.
Ben
vraiment.
Oui, c'est clair. Vraiment. C'est clair. Donc, on va vous laisser entendre ça tout de suite après la pause. Hey, tout de suite après l'émission, c'est-à-dire, je te souhaite de passer une belle soirée
Merci.
En compagnie de Gérard Deltel. Puis, nous, on se rejoint dans quelques semaines, mon ami.
À bientôt.
Merci beaucoup.
Salut.
Marceau, le soir. Red against le matin.
Le matin. Boulevard 102.1.
Puis tu sais, j'ai rien, moi, contre le country. Puis
t'as tout contre le country.
J'aime
pas que t'as rien contre le country, c'est pas vrai.
Plus le new country. Mais tu sais, qu'est-ce que je trouve drôle? C'est comme le seul style de musique que tu te costumes un peu pour aller dans un festival ou voir un show. T'sais, tu t'en vas dans un festival punk, là. Moi, ma casquette Vans, mes Vans que j'ai dans les pieds, porte tout le temps, tu sais. C'est rien que des festivals New Country que Gab Marino puis les fans country débarquent avec des bottes de cowboy puis des chapeaux. Ils assument pas de la vie de tous les jours.
Pour ton rattrapage de Rage Against the Machine, rends-toi sur le blvd.fm et l'application mobile.
102.1
Mars au soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis. Mars au soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
Ce week-end au Centre Vidéotron, c'est le retour de nos champions, les Remparts de Québec. On vous attend ce week-end pour les festivités d'ouverture Budweiser. Dès midi, tailgate sur la place Jean-Béliveau. DJ, animation, photobooth avec les trophées, food truck et bien plus. Samedi, voyez en primeur nos nouveaux chandails et assistez au spectacle de Clay & Friends en après-match. Dimanche, arrivez tôt pour voir le cirque Flip Fabric en performance, suivi de la levée des bannières des champions. Billets au rempart.ca.
Lévis Mazda, c'est le concessionnaire Mazda par excellence sur la Rive-Sud. Côté neuf, on a des MX-30 100% électriques pour livraison immédiate à seulement 29 995 plus taxes. On a aussi le CX-5 2024 4 roues motrices, réputé pour sa fiabilité, en location 4 ans, 0 $ de comptant pour 113 $ par semaine. Et ça, c'est sans parler de notre inventaire d'occasion. LévisMazda.com ou passez-nous voir sur place. Chez Lévis Mazda, on s'occupe de vous.
Certaines conditions s'appliquent, détails en succursale.
Le 23 et 24 septembre, ne manquez pas la Route des arts et saveurs de Portneuf. Un événement artistique, gourmand et gratuit. 20 arrêts, 30 activités spéciales et une vue imprenable sur le fleuve et les rivières du comté vous attendent. Trajet et programmation sur routearts-et-saveurs.com.
C'est la rentrée et plusieurs chantiers se poursuivent à Québec. La Ville de Québec vous invite donc à planifier vos déplacements, que ce soit en partant plus tôt, en utilisant les applications de navigation, le transport en commun ou actif, vous réduirez ainsi vos irritants. Votre collaboration est essentielle dans l'amélioration de notre ville.
Pour votre entreprise, choisir l'équipe de TML Informatique, c'est savoir s'entourer d'experts pour être bien conseillé. C'est aussi une offre complète de services en cybersécurité pour vous assurer une tranquillité d'esprit pour que vous puissiez vous concentrer sur vos activités professionnelles. TMLinformatique.com, revendeur certifié des produits Lenovo.
Le virage numérique et le commerce en ligne, ça t'intéresse? L'AEC en coordination du commerce électronique de la formation continue du Cégep Garneau, c'est pour toi. 100% en ligne, d'une durée de 9 mois, comprenant un stage de fin d'études de 5 semaines en entreprise. Gestionnaire de site web transactionnel, responsable du e-marketing, chargé de projet en rédaction web, tous des emplois actuels que tu pourras occuper après tes études. Assiste à la prochaine séance d'information en ligne le 25 septembre. Détails au progresseez.ca. Bière à Basta, c'est la place festive sur Saint-Joseph. À deux ou en gang, venez déguster notre nouveau menu, toujours inspiré des traditions et racines italiennes. Des ingrédients de qualité, une ambiance décontractée et un décor éclectique à la new-yorkaise. Ça vous dit? Bière à Basta sur Saint-Joseph. On vous garde une place.
Allô, Nissan?
Hey, Karine! Ah, oh, t'es pas venue avec ton escouade spéciale?
Non, mais ils te font dire bonjour.
Ah! Bonjour, escouade spéciale. Alors, ta mission aujourd'hui? Tester la traction intégrale intelligente du Nissan Rogue.
10-4.
Ces 5 modes de conduite te permettent d'aller sur tous les types de terrain en toute confiance.
Même dans un chemin escarpé, en petite garnotte dans le fond des bois?
Même dans un chemin escarpé, en grosse garnotte dans le fond des bois. Louez le Nissan Rogue SV à traction intégrale à partir de 470 $ par mois pendant 64 mois. Et faites vite, il est présentement en stock.
Jusqu'au 2 octobre, à compte de 2585 $, valeur de 39 796 $. Sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent, détails chez Nissan.
Mark Zuckerberg trippe tellement sur les arts martiaux mixtes,
hey, tout le monde pétaille,
qu'il a essayé de faire une jambette à Boulevard sur Facebook et Instagram. Vous ne trouvez plus sur ces plateformes? Pas de trouble. Pour rester informé sur ce qui se passe à Boulevard, l'app Boulevard 102.1, l'infolettre, TikTok, YouTube, X, c'est l'affaire qui s'appelait Twitter, et le BLVD.fr.
Boulevard 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Alors voilà, c'est ce qui termine l'émission avec Samuel Tremblay-Michaud en espérant que vous ayez passé un excellent 60 minutes. Et si c'est le cas, ben, je vous invite à rester à l'antenne après la pause. Ils vont être là en compagnie de Gérard Delicat. Donc, moi, je vous laisse là-dessus. Je vous dis une bonne nouvelle. Tiens, demain, le soleil va revenir, et ça, jusqu'à lundi prochain. Donc, il n'y aura pas d'averse jusqu'à lundi prochain. Si on suit aux gens d'Environnement Canada. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 11h pour ce qui est de Marceau le midi avec Pascal CV ainsi que mon chum Thomas qui sera là. Donc, belle soirée, puis à demain. Salut les amis. Bye-bye.
Marceau le soir.
Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
Chez Rampe Boréal, on a de tout pour améliorer votre terrasse. Escalier, rampe, clôture, ainsi que des structures et planchers en aluminium ignifuge. Visitez rampeboreal.ca.
Marc Dupré a testé le moteur Turbo Max du GMC Sierra 1500.
Ouais, d'ailleurs, je pars pour le Chaland en fin de semaine, puis j'aimerais peut-être ça encore le tester. Je vous le ramènerai après. Ou l'autre semaine d'après, ou l'autre d'après. OK, bye!
Besoin d'un camion pour vos nouveaux projets? C'est le temps de passer au GMC Sierra 1500. Les membres de Costco admissibles obtiennent une prime de 750 $. Visitez votre concessionnaire GMC dès aujourd'hui pour l'essayer. Les conditions s'appliquent? Détails à offre-gmc.ca.
Y'a mouillé tout l'été puis t'as pas fini ton patio? Avec Limaco, t'as plus de défaites.
Du 7 pour ton patio, du 7 pour ta pergola, du 7 pour tes clôtures. Durable à prix compétitif, vendu par des spécialistes avec près de 30 ans d'expérience.
Finis-le ton patio! Limaco.ca.
Tu es débrouillard, ouvert d'esprit et fais preuve d'initiative? Hébergement Rive-Nord te veut dans son équipe. Depuis 2015, Hébergement Rive-Nord accueille des résidents présentant une déficience intellectuelle et ou un trouble du spectre de l'autisme. Notre équipe dynamique est composée d'éducateurs spécialisés, d'intervenants en délinquance et plus. Salaire compétitif à partir de $22.25, horaires flexibles, assurance collective et soins dentaires. Chez Hébergement Rive-Nord, on prend soin des autres et des nôtres. Postule sur l'onglet carrière au hébergementrivenord.com.
Pour joindre la gang en ondes par téléphone, 780-1021, texto 971-1021.
Boulevard 1021.
Puis ton garçon, pas mal occupé. En plus de l'école, il vient de commencer à travailler.
Ah oui? Dans quoi?
Dans un cadre.
Oui, de nouvelles normes encadrent le travail des jeunes grâce à d'importantes modifications apportées à la loi sur les normes du travail. Ce nouveau cadre, qui permet l'accès à l'emploi à partir de 14 ans, tout en limitant le nombre d'heures de travail hebdomadaires, assure à nos jeunes un environnement sain et sécuritaire, comme pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs du Québec. Les normes du travail, bien encadrées pour mieux travailler. Un message de la CNESST.
C'est le temps de changer. Viens choisir ta monture de rêve chez lavue.ca. Plus de 4000 montures en inventaire, du choix, du style, on t'en met plein la vue. Examen de la vue disponible et venez profiter des meilleures promotions de l'année. Du 22 au 24 septembre à Beauport, Sainte-Foy et Fleur-de-Lys. Réservez maintenant lavue.ca. Véronique Michaud, opticienne.
Podcast. Salut, c'est Sam Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile dans Gravel dans le retour. Embarquez avec moi dans mon tout nouveau podcast. On va faire une méchante belle ride ensemble et on va jaser de char. La seule voiture faite au Québec, des infos sur l'entretien d'un véhicule électrique, puis on va même s'amuser dans l'univers de la F1. C'est pour tout le monde, que vous soyez un connaisseur ou non de l'automobile, on va assurément découvrir des choses ensemble.
Le Roadcast Boulevard 1021. En ondes tous les mardis, 19h. Aussi disponible partout, sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube.
Une présentation de Volkswagen Saint-Nicolas, votre concessionnaire de confiance sur la Rive-Sud. Ça clique avec Saint-Nic.
Bonsoir,
Boulevard 1021, sur les plaines, au centre Vidéotron ou dans votre char. Boulevard 1021. Ça se passe à Québec. Ça se passe à Boulevard 1021.
Boulevard
1021. Votre partner de show.
Hey, bonjour et bienvenue à ce premier épisode du podcast Le Roadcast Boulevard 1021. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et bienvenue dans l'univers automobile. On va parler de voitures ensemble dans ce beau podcast-là, mais on va parler de voitures avec des passionnés automobiles également. Parce que comme je dis souvent, c'est pas parce que je suis journaliste automobile que je connais tout de l'univers de l'automobile. Et il y a plein de spécialistes qui vont venir s'asseoir avec moi pour discuter de voitures. On va parler de voitures anciennes, de courses automobiles, d'entretien de véhicules, de voitures électriques. Vous allez voir, les sujets vont être très variés et j'espère que vous allez aimer les intervenants autant que moi je les aime parce qu'ils sont si passionnants à entendre. On va commencer ce premier épisode-là avec le député de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltel, qui va venir discuter d'une voiture emblématique pour le Québec, la Manic GT. C'est la première voiture à avoir été produite en chaîne au Québec et Gérard Deltel est un passionné d'histoire, un passionné d'automobile et vous allez voir, le mix entre ces deux choses-là fonctionnent très bien avec la Manic GT. Je voulais prendre aussi le temps de remercier l'équipe de Volkswagen Saint-Nicolas. Volkswagen Saint-Nicolas, c'est une équipe de gens passionnés par les produits Volkswagen et c'est eux aussi qui croient à ce beau podcast-là. Donc, merci d'être là. Tu sais, Volkswagen Saint-Nicolas, c'est pas juste des conseillers, c'est aussi un atelier de réparation pour les produits Volkswagen. Ils sont à la fine pointe de la technologie pour faire l'ensemble de l'entretien de votre Volkswagen. On a plusieurs produits à haut de gamme, là. C'est vraiment des espèces d'outils de calibrage, des outils d'entretien qui sont vraiment à la fine pointe de la technologie et eux les ont, ces produits-là, pour s'occuper de votre produit. Ils sont aussi extrêmement équipés en inventaire présentement. On a plein de modèles qui sont disponibles et si vous êtes à la recherche d'un VUS ou d'une voiture ou d'une peu importe quel genre de modèle vous fait triper chez Volkswagen, on devrait être capable de mettre la main sur le parfait exemplaire pour vous. Et ça, ben c'est pas compliqué. Il faut simplement aller voir l'équipe de Volkswagen Saint-Nicolas qui vont s'occuper de vous. Donc, je vous souhaite une très belle écoute avec ce premier podcast-là. J'espère que vous allez aimer ça. Vous allez voir, il y en a plein d'autres qui s'en viennent. Donc, voici le premier podcast avec Gérard Deltel.
Le Roadcast Boulevard 102.1 avec Samuel Tremblay-Michaud. Une présentation de Volkswagen Saint-Nicolas, votre concessionnaire de confiance sur la Rive-Sud. Ça clique avec Saint-Nic.
Mon prochain invité, je pense que c'est quelqu'un qui va être très intéressant. Là, déjà là, je ne mets aucune pression, là, mais je pense que mon invité va être très intéressant parce qu'on va parler de restauration de voitures anciennes. Des voitures qui demandent souvent beaucoup de doigté, qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour pour réussir à faire un beau projet de ces voitures-là. Et bien qu'on peut toujours imaginer la personne spécialiste en mécanique qui repart à zéro, qui refait lui-même l'ensemble de la carrosserie, c'est pas le cas de tous les passionnés de restauration de voitures. Des fois, les gens, ben, on aime les vieilles voitures et on s'entoure de spécialistes pour réussir à arriver à ces fins-là. Et aujourd'hui, bien, je parle avec un propriétaire d'une voiture assez unique, un propriétaire d'une Manic GT. On va vous en parler de long en large de cette voiture-là, mais c'est une voiture importante pour l'histoire automobile canadienne. Et je suis avec Gérard Deltel, député fédéral de Louis-Saint-Laurent, qui est propriétaire d'une de ces Manic GT-là. Bonjour, Gérard.
Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation.
C'est un immense plaisir, là, vraiment. On s'est rencontrés dans un événement conjoint et on parlait de voitures parce qu'on faisait un peu de radio ensemble pour une radio étudiante à notre ancienne école secondaire.
Le Mont-Saint-Sacrement.
Ben exact, on est allés tous les deux à la même école, mais pas dans les mêmes années. Et quand on s'est rencontrés, ben, je faisais justement de l'automobile, je parlais, puis tout de suite, j'ai senti la passion de l'auto. Ça a pris 2 secondes et vous êtes venu me voir, savoir c'est quoi je faisais, c'est quoi les passions d'auto que j'avais. Et là, on s'est mis à jaser, et là, c'est là que j'ai appris que vous étiez propriétaire d'une Manic GT. Cette voiture-là qui, au bout de la ligne, tu sais, je pense que vous allez être meilleur que moi pour la présenter, est littéralement une page d'histoire canadienne.
Une belle histoire qui, malheureusement, finit mal, mais c'est pas parce qu'elle finit mal qu'elle est pas belle, l'histoire. Et c'est la seule voiture de propriété canadienne à avoir été fabriquée au Canada, en série. Alors, c'est sûr qu'il y a toujours des débats par rapport à ça. Qu'est-ce qui est une voiture canadienne? Qu'est-ce qui n'est pas une voiture canadienne? Tout ça. Mais la particularité, c'est que ça a été fondé par un citoyen canadien qui s'est entouré de financiers canadiens et qui a décidé de produire une voiture en série. Jusqu'à 160 voitures ont été produites. Alors, c'est beaucoup, comme c'est pas beaucoup, mais c'est quand même en série et ça a duré 2 ans et c'est une belle histoire.
Quand on parle de voitures en série, c'est des voitures qui sont construites en chaîne, à la ligne. Là, pour être sûr que les gens qui ne savent pas c'est quoi, ben, c'est là qu'on on met une chaîne de production puis on met au monde des voitures au bout de la ligne de ça. Qu'est-ce qui est le fun aussi de cette voiture-là? Ben, c'est que c'est une voiture qui est très rare. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Et justement, le sujet du podcast, c'est parler de restauration de véhicules. Parce que j'imagine que ça a dû être difficile de trouver une voiture comme ça en parfait état, vu qu'il n'y en a plus beaucoup sur les routes. Qui ont un certain âge aussi, ces voitures-là, j'imagine que ça doit être un bon défi.
Ça a été un grand défi, mais ça arrive un peu par hasard. Hein? Parce que moi, je suis pour mon passe-temps, c'est de regarder les annonces classées, mais Marketplace maintenant, mais dans le temps, Auto Hebdo, ces trucs-là, là, c'est le fun. Ça coûte rien. Tu regardes, comme disait la mère de mes enfants, tu dis, on n'aura jamais des autos de même, ça coûte même trop cher. Oui, c'est vrai, mais c'est le fun. Ça passe le temps, puis ça coûte pas cher. C'est de rêver, puis tout ça. Et donc, j'avais toujours cette passion d'automobile. Moi, j'aime les autos depuis que je suis au même, comme bien des gens, particulièrement des garçons. Et à partir de 14-15 ans, j'ai eu une passion pour les petites voitures sport, les MGB, tout ça. Je rêvais d'avoir une MGB que j'ai eu d'ailleurs à 25 ans. Et donc, j'avais cette passion-là des voitures.
Voiture anglaise, un tout petit.
Oui, exactement. Les MGB, les Triumph, les Aston.
Réputés pour leur conduite. C'était très amusant derrière le volant.
C'est la conduite directe sur la route. Tant qu'à moi, c'est ça la vraie conduite automobile. C'est quand tu n'as pas de power steering, blablabla. C'est la vraie sensation de la route. Là. C'est comme ça que tu la sens. Et la MGB, c'est une très belle voiture quand ça marche, parce que ça ne marche pas tout le temps. Alors, j'avais toujours cet intérêt-là pour les voitures, pour les petites voitures. J'ai une formation en histoire, donc j'avais toujours l'intérêt sur l'histoire de la voiture. Et donc, je connaissais, et j'aime mon coin de pays, de par mon métier, ça paraît un petit peu. Alors, donc, j'avais cette passion-là pour la Manic. Je la connaissais, mais je n'en avais jamais vu comme telle des Manic. Et j'avais entendu parler de ça. J'en voyais parfois à vendre à l'époque. Mais comme ce n'était pas une décapotable, je me disais, à un moment donné, moi, faire ça. Et puis, tout à coup, bon, j'avais identifié un monsieur qui en avait une. Je suis allé la voir en 2016. C'est mon premier contact avec la Manic. Et par la suite, avec un monsieur Caillé, qui à l'époque habitait à Longueuil, je suis allé la voir. Puis, j'ai fait mon premier contact. J'aimais ça. Et il y a 4 ans, sur Internet, je découvre une voiture qui était à vendre. À ce moment-là, elle était, elle, à Terrebonne. Alors, je suis allé voir ça. Puis, je l'ai acheté. Coup de cœur. Un mois plus tard, j'envoie une autre qui est à vendre à Ottawa. Cette fois-là, ça tombe bien. Et, boum, j'achète la deuxième. Parce qu'elle était correct, mais c'était pas tout à fait parfait.
L'idée aussi, c'est d'avoir peut-être deux voitures du même modèle pour avoir des pièces de rechange, être capable d'avoir... Parce qu'il faut comprendre que d'avoir des voitures avec un certain âge comme ça, on peut pas simplement aller dans un magasin de pièces grande surface puis espérer trouver notre pièce de rechange par hasard. Là. Non, ça prend des fois avoir une voiture clone, qu'on appelle, pour réussir à aller chercher des pièces puis la réparer.
Et dit respectueusement, pour cette entreprise-là, pour qui j'ai énormément de respect puis que je passe souvent bien du temps, c'est pas chez Canadian Tire que tu vas trouver les pièces.
Okay? Non, exact, c'est ça.
Vraiment, il faut que tu ailles sur Internet et tout ça. D'autant plus que cette voiture-là, ben, c'est une base Renault, mécanique Renault et tout ça. Donc, 85% des pièces mécaniques sont des pièces Renault. C'est 85% de fournisseurs, à part ce que l'autre faisait, parce que 65% de la voiture est constituée par Manic elle-même. Mais les pièces Renault, ben, comme c'est une base de Renault 8, les Renault 8 s'en est fait des centaines de milliers, donc les pièces sont quand même accessibles par Internet. Ouais, mon maître cylindre est venu d'Allemagne, puis ça a pris 3 jours, puis il est arrivé. J'étais très heureux. T'as pas donné, mais c'était très heureux. Et ça fait partie du défi puis du plaisir de reconstituer une voiture aussi. C'est de faire son histoire, mais également de découvrir comment tout ça s'est fait. Alors, c'est un chantier qui est mécanique, mais c'est surtout aussi un chantier de découverte. Et un peu comme on disait, comme j'aime me plaire à le dire, plus t'en apprends, plus tu te rends compte que tu sais rien. C'est un puissant fond, cette histoire-là. Alors, comme j'ai une formation en histoire, puis je me passionne pour l'histoire de mon coin de pays, c'était fantastique de découvrir ce secret trop bien gardé de l'histoire automobile, la seule voiture de propriété canadienne à avoir été produite en série après la Deuxième Guerre. Alors, il faut préciser ça, parce qu'il y a eu des voitures qui ont été faites au Canada entre les deux guerres, puis tout ça, mais si on veut parler d'une voiture contemporaine, c'est ça. Et n'oublions pas non plus, parce que les gens vont me dire « Ouais, mais attends, là, la Bricklin, là, dans les années 70, au Nouveau-Brunswick, là, il me semble... » Oui, oui. Mais Bricklin, c'était un monsieur Bricklin américain, là, qui ne savait même pas c'était où le Nouveau-Brunswick quand il s'est installé ici. Là. Alors, c'est deux choses différentes et c'était de propriété américaine et j'ai rien contre eux autres, là, mais c'était pas de propriété canadienne. Et puis oui, ils en ont fait, mais oui, le Canada a beaucoup contribué, en fait, particulièrement les contribuables du Nouveau-Brunswick qui ont perdu beaucoup d'argent là-dedans. Et dans le cas de la Manic, ben, c'était des bailleurs de fonds canadiens qui étaient sur place et ça s'est fait chez nous, ici, au Québec. Alors, il y en a qui vont dire, ben là, c'est une voiture uniquement canadienne, une voiture québécoise. On rentrera pas là-dedans. Mais l'un n'empêche pas l'autre, les amis. Oui, c'est la voiture québécoise, la seule voiture québécoise. Mais ça tombe bien, ça donne que ça s'est pas fait ailleurs. Alors, c'est la seule voiture canadienne aussi.
Exact. Donc, elle a comme un double titre parce qu'effectivement, ça, le projet est parti d'un petit garage à Longueuil. Là. Donc, c'est parti au Québec, cette belle manique-là. On se rapporte à votre achat. Vous en avez acheté deux. Vous me dites, c'est à quelle année que vous avez fait cet achat-là?
Il y a 4 ans. Puis, j'en ai même acheté une troisième. Parce que celle que j'ai actuellement, c'est le numéro 104. Mais la première que j'avais achetée, c'était le numéro 66. La deuxième, c'était le numéro 141.